Bonjour, donc je m'appelle Sarvane Barraud, je suis maître de conférence en psychologie clinique et en psychopathologie et je vais vous présenter aujourd'hui le projet sur lequel je travaille avec le docteur Paul Bruno qui est psychiatre et addictologue et MCU-PH à l'université et à l'hôpital de Tours. Donc on travaille ensemble sur un projet qui parle de l'addiction à l'alimentation dans une population particulière puisque c'est chez des patients obèses qui participent à, qui vont faire des opérations visant à la réduction de l'obésité. Alors pour commencer, je tiens à remercier la MSH déjà de m'avoir invité à venir présenter ce projet aujourd'hui et puis de son aide et de son soutien dans ce projet. Donc première chose, ma spécialité et celle du docteur Paul Bruno, c'est plutôt l'addictologie, donc la question de l'addiction, que ce soit à des substances ou à des comportements. Et donc, première question, pourquoi les addictologues s'intéressent à la question de l'obésité? L'obésité, en fait, c'est une pathologie qui va concerner, c'est une condition physique qui va concerner un grand nombre de disciplines de la médecine comme de la psychologie ou de la psychiatrie. Donc c'est une question de santé publique qui va impliquer les domaines de la pneumologie, de la gastro-entérologie, la médecine interne, la psychiatrie. Et au cœur de tout ça, finalement, se situe l'addictologie qui va pouvoir avoir des liens avec toutes ces différentes disciplines. Donc la question en ce qui concerne l'obésité est celle de la prise en charge chirurgicale, c'est-à-dire qu'en est-il de la chirurgie de l'obésité. Aujourd'hui, on considère que l'obésité est une maladie chronique qui constitue une problématique de santé publique et surtout que c'est une pathologie multifactorielle, c'est-à-dire qui peut être expliquée par un nombre divers et parfois importants de facteurs, qu'ils soient médicaux ou psychologiques. Selon une enquête récente d'Aubé Piroche, il y aurait à peu près 15% d'obèses en France, ce qui en fait évidemment une problématique de santé publique. La question qu'on se pose, nous, justement, en termes psychologiques et psychiatriques, c'est est-ce qu'une partie de ces patients pourrait souffrir d'addiction au sens large? Et donc, on s'est intéressé à un domaine d'intervention privilégié qui est celui de la chirurgie de l'obésité. Alors, en termes d'indications, puisqu'il y a un certain nombre d'indications, mais aussi de contre-indications à ce type de chirurgie, je rappelle que la chirurgie, c'est quand même un traitement qui n'est pas anodin, c'est un traitement qui est lourd, qui est invasif, évidemment, et qui va induire des conséquences ultérieures sur la vie du sujet. Donc, première chose, il faut que les individus aient un IMC qui soit supérieur à 40 kg par mètre carré ou un IMC supérieur à 35 avec des comorbidités, c'est-à-dire des troubles associés, les comorbidités les plus fréquentes étant l'arthropathie et le diabète. En d'autres termes, l'obésité, pour être prise en charge de façon chirurgicale, doit être sévère et ou associée à des troubles somatiques qui peuvent avoir des répercussions sur la vie du sujet. On va aussi préconiser la chirurgie en seconde intention, après échec d'un traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique, pendant une durée de 6 à 12 mois. En d'autres termes, la chirurgie n'est pas la première solution, mais est bien une solution de seconde intention quand les autres traitements moins invasifs n'ont pas été couronnés de succès. Et donc, cette chirurgie est envisagée donc en deuxième intention s'il n'y a pas une perte de poids suffisante. Donc les patients doivent être bien informés puisque, comme je le disais, ça reste des interventions qui sont lourdes à la fois en termes de procédures chirurgicales elles-mêmes et de suivi et de suite post-opératoire. Donc ça nécessite toujours des évaluations pré-opératoires qui sont obligatoires auprès d'un psychologue et ou d'un psychiatre qui vont évaluer notamment l'état psychologique, éventuellement les comorbidités psychiatriques du sujet pour s'assurer qu'il ne présente pas de vulnérabilité qui pourrait causer des problèmes après l'intervention. Il faut aussi que le patient soit d'accord pour un suivi médico-chirurgical à long terme, c'est-à-dire que le patient doit s'engager dans une démarche de soins qui va au-delà de l'opération, mais qui va s'inscrire sur plusieurs années, un suivi qui sera à la fois psychologique et médical sur plusieurs années, pour que la procédure au sens large puisse être considérée comme un succès. Donc la prise en charge se fait par des équipes pluridisciplinaires, toujours en lien avec le médecin traitant. Donc je vous renvoie aux différents champs de la médecine et de la psychologie qui peuvent être engagés dans ce type de processus. Donc une question qu'on s'est posée nous, c'est quel est l'intérêt d'une évaluation addictologique? Pourquoi chez ces patients doit-on au préalable à la chirurgie s'intéresser au fait qu'ils puissent ou non présenter des addictions? Vous voyez ici des images, des coupes cérébrales qui sont issues de l'étude de Wang et Volkov de 2001 qui montrent que chez des sujets obèses, certaines zones cérébrales, certaines activations cérébrales sont relativement similaires à celles de patients présentant des addictions, notamment à la cocaïne. Donc c'est déjà cette première similitude en termes de fonctionnement, de spécificité du fonctionnement cérébral qui va interpeller la communauté médicale sur le sujet. Donc la question que s'étaient posée ces auteurs était: est-ce que l'obésité peut être inclue dans les troubles cérébraux? Voilà, nous la question qu'on s'est posée, c'est la question du lien entre addiction au sens large, mais aussi addiction comportementale et obésité. En préalable, je voudrais dire qu'une addiction comportementale, c'est une addiction comme au même titre que l'alcoolodépendance, que le tabagisme, mais c'est une addiction qui s'exerce non pas sur un produit, mais sur un comportement. À l'heure actuelle, la seule addiction qui est reconnue dans les classifications internationales, c'est l'addiction aux jeux de hasard et d'argent, qu'on appelle jeu d'argent pathologique. Mais on considère aussi un certain nombre d'autres comportements qui peuvent devenir excessifs, notamment les jeux vidéo, qui vont rentrer dans quelques mois dans la prochaine édition de la classification européenne des troubles mentaux, la CIM 11, l'addiction sexuelle, les achats compulsifs, et on se demande aussi dans quelle mesure les troubles du comportement alimentaire, sur le versant plutôt addiction à l'alimentation, pourraient être liés à la problématique d'obésité. Dans une étude de 2014, Percey et ses collaborateurs ont montré que chez les patients obèses, il y aurait 15 à 25% de patients qui présenteraient une addiction à l'alimentation. Donc concernant l'addiction à l'alimentation, l'hypothèse, c'est qu'il serait possible de développer une addiction vis-à-vis d'aliments qui seraient riches en sucre, en graisse et ou en sel, et que donc ce processus addictif, il pourrait s'appliquer aussi à des aliments. Donc ce qui nous permet de dire que ces processus relèvent de l'addiction, c'est toutes ces caractéristiques communes entre la perte de contrôle alimentaire et la perte de contrôle que l'on va retrouver chez les sujets addicts. Donc la perte de contrôle sur le temps et la quantité passée à manger, mais aussi les dommages, donc toutes les conséquences négatives qui vont être engendrées par ce comportement, et surtout le fait que le sujet poursuive le comportement malgré les dommages. En d'autres termes, ce qui constitue l'addiction, c'est la perte de contrôle, mais aussi le fait que malgré le fait que le sujet pâtisse à différents niveaux de sa conduite, il va tout de même poursuivre. Donc le concept d'addiction à l'alimentation, il est encore très discuté. Il est initialement proposé aux États-Unis dans le champ de l'obésité très morbide. Il y a une étude de 2004 qui montre que chez les candidats à une chirurgie bariatrique, donc les chirurgies qui relèvent justement de l'obésité, il y aurait une prévalence relativement significative quand même des troubles addictifs, puisque l'addiction aux substances psychoactives serait sur la vie entière de 0,5 à 35 %. 35 %, c'est vraiment beaucoup. Et au moment de l'évaluation, de 0,5 à 2 %. Sachant que dans cette étude, ils n'ont évalué que les addictions aux produits et pas les addictions comportementales. après chirurgie bariatrique, on se rend compte que la prévalence de certaines addictions va augmenter. C'est-à-dire qu'on va avoir des sujets qui ne présentaient pas d'addiction en préopératoire et qui vont, suite à l'opération, développer des addictions. Donc, notamment l'augmentation de la prévalence de l'alcoolodépendance qui serait jusqu'à 10%, ce qui est un chiffre important, mais aussi la consommation de cannabis. La limite de ces études, de toutes les études finalement qu'on peut trouver dans la littérature, c'est que ces études sont faites vraiment à court et à moyen terme et elles ne permettent pas d'évaluer ce qui se passe plutôt sur le long terme. Donc pourquoi cette augmentation de la prévalence des addictions après chirurgie ? Déjà, il y a la question du bypass gastrique et de l'absorption. L'absorption des nutriments et des aliments va être différente après chirurgie, ce qui peut entraîner des modulations dans la consommation à la fois alimentaire, mais aussi de substances ou d'alcool. Mais aussi parce qu'il y a des facteurs de vulnérabilité communs entre certains troubles alimentaires, notamment de l'ordre de la dépendance, et les autres troubles addictifs. Donc la question qu'on se pose est celle du transfert de dépendance. Est-ce qu'il n'y aurait pas des patients qui présentent une addiction à l'alimentation et qui, suite à l'opération, vont stopper la conduite alimentaire excessive et plutôt aller compenser par la consommation d'alcool, de tabac, de cannabis ou de substances au sens large. Donc l'intérêt d'une évaluation addictologique systématique chez les patients obèses, elle est évidemment importante. Important parce qu'on sait que les addictions chez ce type de patients sont plus fréquentes qu'en population générale, mais surtout elles peuvent être des facteurs de risque d'évolution négative, notamment si les addictions en préopératoire sont insuffisamment traitées. Donc on peut voir des conséquences sur la perte de poids qui ne sera pas forcément aussi importante que celle souhaitée, mais aussi la qualité de vie. Donc une détérioration un peu générale de la qualité de vie de la personne. Et l'addiction peut aussi avoir des effets sur l'observance au long cours, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le traitement ne se réduit pas simplement à l'intervention chirurgicale, mais nécessite de s'inscrire dans un processus médical et ou psychologique long. Et donc le fait de présenter des addictions peut venir perturber cette compliance thérapeutique. Les addictions sont aussi des contre-indications potentielles à la chirurgie. Il peut y avoir des psychiatres ou des psychologues qui font l'évaluation préopératoire et qui décident qu'au vu de la présence ou de la sévérité d'une addiction, le moment n'est pas opportun pour le patient pour se faire opérer. Et donc, ça peut être réévaluable à distance après une prise en charge. Donc, les objectifs de la chirurgie bariatrique, ça va être en premier lieu, une perte de poids durable. Néanmoins, il y aurait un patient sur cinq qui ne perdrait pas le poids attendu. Un autre objectif, c'est évidemment d'améliorer la qualité de vie générale de ces patients, notamment par le biais d'améliorer ou de soigner certaines comorbidités somatiques, donc le diabète, l'hypertension, qui sont particulièrement importantes en termes de prévalence, mais aussi de sévérité chez les patients obèses. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a des prédicteurs d'évolution post-opératoire ? En d'autres termes, est-ce qu'il y a des éléments, notamment psychologiques et psychopathologiques, qui vont nous permettre de dire que certains patients vont bien évoluer en post-opératoire ou au contraire, mal évoluer en post-opératoire ? Alors, du côté évolution négative, on s'intéresse aux contre-indications. Une première contre-indication serait un trouble du comportement alimentaire sévère et non stabilisé. Ça peut être la boulimie, ça peut être aussi l'addiction à l'alimentation. Donc quand il y a des patients qui présentent des troubles du comportement alimentaire importants, une des premières étapes va être la prise en charge de ce trouble avant même d'envisager la chirurgie. L'addiction à l'alcool ou aux substances psychoactives, l'absence de prise en charge médicale préalable identifiée. Donc si, comme je le disais, la chirurgie, c'est plutôt une prise en charge de seconde intention après une prise en charge médicale et nutritionnelle qui n'aurait pas fonctionné comme attendu. Autre contre-indication, ce serait l'incapacité prévisible du patient à participer à un suivi médical prolongé. Les troubles cognitifs et mentaux sévères sont aussi un facteur de contre-indication. Et éventuellement une vulnérabilité à l'anesthésie qui ferait qu'on ne proposerait pas ce type d'intervention puisque le pronostic vital sera engagé à court terme. Donc l'idée, c'est de se donner le temps de pouvoir prendre en charge les patients en préopératoire et éventuellement de réévaluer à distance après une prise en charge adaptée, notamment addictologique ou psychiatrique, s'il y a des troubles du comportement alimentaire ou des troubles addictifs. Donc il faut penser une prise en charge d'au moins 6 à 12 mois. Et s'il y a une amélioration significative, on pourra penser à l'indication chirurgicale. Donc ça peut être utile pour favoriser une prise en charge préopératoire. Et donc l'idée, c'est d'insister sur le suivi psychiatrique et psychologique avant l'opération et après l'opération. Donc en termes de prise en charge, donc, on l'a dit, les addictions sont plus fréquentes qu'en population générale. Alors, non, j'ai un problème de diapo. Oui, j'ai deux fois la même diapo, excusez-moi. Donc en termes de prise en charge, donc, on sait que l'addiction se situe au carrefour de la biologie, de l'aspect social et de la psychologie. Et donc la prise en charge devrait être pluridisciplinaire. Donc on va notamment proposer des entretiens motivationnels qui sont un type de psychothérapie centrée des psychothérapies centrées sur les facteurs de vulnérabilité associés. On parlait de troubles du comportement alimentaire, on parlait d'addiction. On se pose la question de la réduction ou de l'abstinence. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut accompagner le patient plutôt vers la réduction de la consommation ou vers l'abstinence totale ? Ça, c'est vraiment une question qui va se poser au cas par cas, en fonction de ce que souhaite le patient et puis de ce qu'on va envisager ensuite comme type de prise en charge, notamment opératoire. Il s'agit aussi de penser aux transitions entre addictions. C'est vraiment, nous, la question centrale qui nous occupe après chirurgie. On s'intéresse aussi plutôt du côté psychiatrique à l'activation des modulateurs du système de la récompense. Et là se pose la question, qui est une question importante en addictologie, la question de la substitution. Est-ce qu'on met en place un traitement de substitution ou est-ce qu'on travaille avec le patient sur quelque chose qui viendrait se substituer au comportement addictif ? On peut aussi proposer des prises en charge groupales, donc des soutiens d'entourage, des groupes de patients. L'idée étant, entre autres, de faire de la réduction des risques, mais aussi de la prévention. Prévention de l'apparition d'autres troubles, mais aussi prévention de la rechute. Donc la prise en charge est à adapter en fonction de la motivation et de l'objectif du patient. Et donc on garde en tête la question des transitions. Donc concernant le projet qui nous amène ici aujourd'hui, l'objectif principal, ce serait donc d'étudier l'addiction à l'alimentation chez les patients obèses dans une perspective longitudinale. Jusqu'ici, donc il y a un certain nombre d'études qui traitent déjà de la question, mais qui sont des études transversales, donc qui font une espèce de photographie du fonctionnement et des comorbidités de la personne à un moment T. L'idée ici, c'est de recueillir des données en préopératoire, au moment de l'opération, et puis ensuite sur plusieurs temps, sur plusieurs années, de façon longitudinale. L'objectif étant de regarder l'évolution. Donc l'idée, c'est d'aborder de manière nouvelle ces patients pour lesquels, notamment les patients pour lesquels la chirurgie est considérée comme un échec, c'est-à-dire qu'on va regarder si ces patients, s'il y a des différences entre les patients chez qui l'opération va plutôt être un succès et les patients qui, au contraire, ne vont pas avoir la perte de poids escomptée ou alors qui vont perdre du poids, mais en reprendre aussi rapidement. Donc, ce que nous souhaitons faire, donc, c'est investiguer le lien entre l'addiction à l'alimentation et le devenir des patients opérés d'une chirurgie de l'obésité. Donc, ce projet, il s'inscrit dans le cadre du pôle alimentation de l'Université de Tours et il va impliquer un certain nombre d'équipes de chercheurs et de cliniciens, donc en psychologie, Donc le côté psychologique, c'est plutôt donc le PAVA, notamment avec ma participation en psychiatrie, donc avec l'unité INSERM U1253 avec le docteur Paul Bruno et le service de nutrition hospitalo-universitaire avec le professeur Ducluseau qui travaille à l'unité INSERM U1069. Donc le projet va concerner finalement tous les patients obèses qui consultent avant ou après une chirurgie de l'obésité, donc qui viennent en suivi annuel à l'hôpital de jour, donc dans le service de médecine interne et de nutrition donc du CHU de Tours, donc en collaboration avec le professeur Ducluseau et le docteur Deluca. La procédure, donc, ça va être d'implanter des auto-questionnaires au cours des évaluations, c'est-à-dire que les patients, à chaque fois qu'ils viendront pour une évaluation préopératoire, pour l'opération et ensuite pour le suivi médical, vont recevoir des auto-questionnaires qu'ils vont remplir sur place et rendre dans le service. L'idée étant de regarder à chaque temps comment ça évolue. Donc l'évaluation se fait sur différents temps, donc avant la chirurgie, et ensuite tous les ans au cours du suivi post-opératoire, donc sur une période de 5 ans après opération. Donc les mesures, ce sont donc des auto-questionnaires, c'est-à-dire que le patient a un questionnaire qu'il remplit. Ce sont des questionnaires qui sont soit sur papier, soit sur support informatisé, donc sur tablette. Donc on va recueillir des données sur l'obésité, donc l'IMC, les pathologies somatiques associées. On va évaluer donc l'addiction à l'alimentation et l'addiction à différentes substances psychoactives. Et de manière générale, on va s'intéresser à un grand nombre de facteurs de risque psychologiques et psychiatriques, donc les troubles du comportement alimentaire, la dépression, mais aussi l'impulsivité, l'estime de soi, la personnalité. L'objectif étant d'avoir une vue assez large sur le fonctionnement du patient, à la fois au niveau psychologique et psychopathologique. Donc aujourd'hui, voilà où on en est. L'implantation des auto-questionnaires est désormais effective dans le service de chirurgie. Donc au mois de mai 2018, on avait 670 patients qui avaient déjà été inclus dans ce protocole. Donc on est toujours en train de recueillir les données et de finaliser la base de données. En fait, le gros travail en termes de quantité de travail de cette étude, c'est vraiment de retranscrire toutes les données recueillies, puisqu'il y a un nombre important de données, 670 patients qui ont rempli une quinzaine de questionnaires. Donc l'ampleur du travail, c'est surtout la formalisation et le remplissage, à défaut de meilleurs mots, des bases de données. Donc ça, c'est en cours de finalisation, sachant que parallèlement à la finalisation de la base de données, il y a toujours du recueil de données sur le site du CHU. En juin 2018, donc aujourd'hui, on a prévu donc d'analyser les résultats préliminaires, sachant que ce travail a fait l'objet d'un mémoire de Master 1 d'une étudiante, donc Céline Perronin, qui soutient demain, co-encadré par Paul Bruno et moi-même. Et l'objectif, ça va être de valoriser ensuite nos résultats. Donc on a proposé une communication au congrès de la Société française de psychologie qui aura lieu en septembre à Reims, donc une communication qui a été acceptée et dans laquelle on souhaite évoquer la question du transfert d'addiction. Paul Bruno a communiqué le projet de recherche autour du projet de recherche dans le cadre des Journées européennes de l'obésité en 2017 et en 2018. Nous avons également participé à la fête de la science en 2017 sur le stand MSH avec une partie sur l'addiction à l'alimentation. Et nous prévoyons dans un futur relativement proche de rédiger deux articles dans des revues internationales à comité de lecture, donc un article dans une revue de nutrition chirurgie, donc plutôt sur les déterminants, les facteurs de bon ou de mauvais pronostic chez les patients obèses suite à l'opération, et dans une revue de psychologie et addictologie où on envisage plutôt d'évoquer la question du transfert d'addiction. Voilà, je vous remercie de votre attention.